Elle y pense chaque fois que le train passe.
Stéphane, bonjour.
Elle y pense Franck, bonjour. Tout le temps.
Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Au début, je voulais vous parler d'un gros livre et finalement, j'ai changé d'avis. Je vais vous parler d'un petit livre dont vous avez déjà entendu parler. C'est La petite fille sur la banquise.
Ah oui, d'accord.
Je pense que ce livre, c'est plus facile d'en parler parce que l'autre livre qui est un peu du même sujet, qui parle des violences éducatives ordinaires.
Et qui s'appelle comment du coup parce que...
Qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne » de Olivier Morel.
D'accord.
C'est plus un ouvrage de référence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de références sur tout un tas d'études et de cas qui établissent que les violences éducatives ordinaires existent et ne sont pas reconnues au niveau où elles devraient l'être. Mais en fait, c'est assez difficile de parler de ce livre parce que c'est un peu comme parler d'un dictionnaire. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a plus un catalogue très fourni de références. Donc, en restant un petit peu dans le même thème, j'ai lu aussi récemment La petite fille sur la banquise, qui est un livre de... Ah zut, j'ai un trou.
Et je ne sais plus non plus.
Annabelle Bon.
Oui, peut-être, oui.
Je suis pas sûr du prénom. Et donc c'est un livre qui parle de... Un livre autobiographique qui raconte la vie d'une petite fille de 9 ans. Enfin, la vie qui commence à l'instant où une petite fille de 9 ans est violée. Et ce livre, pour moi, c'est un livre que je trouve très exceptionnel parce que c'est un livre qui trouve une façon de dire quelque chose qui est indicible. Très peu de gens arrivent à comprendre quelles sont les conséquences d'un viol et moi je dirais d'une manière générale des violences que peuvent subir un enfant. Et je vais peut-être dire ce que j'ai senti d'abord, c'est ça explique bien le fait que le viol coupe la personne en deux. C'est-à-dire, et en l'occurrence, là, c'est un enfant qui a encore moins les moyens d'appréhender ce moment et ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une partie continue d'exister apparemment dans la vie normale et une partie n'est plus dans la vie normale. Et il n'y a pas de mots pour dire ça. C'est une dissociation en deux vies parallèles et qui sont qui est provoquée par cette agression sur le corps. Donc c'est l'histoire de cette femme depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 35 ans et elle raconte comment cette dissociation là a fait partie de sa vie pendant toutes ces années, à tous les âges, donc l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, femme célibataire, femme mariée, mère. Et pendant tout ce parcours, cette dissociation reste vivante en elle. Avec beaucoup d'évolution parce qu'elle elle a la chance d'être née dans une famille on va dire un peu bourgeoise, un peu ouverte d'esprit, etc. Donc elle a eu accès à toutes sortes de médecins, de thérapies, de psychiatres. Elle a eu la liberté d'en parler. Mais malgré cette aide, la blessure existe. Quand même. Euh, Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que c'est écrit d'une manière très intéressante parce que c'est pas du tout un livre dans le pathos ou dans quelque chose qui fait peur. C'est vraiment une personne qui parle de ce qui lui arrive d'une manière étrangement compréhensible, je dirais, parce que ce qu'elle raconte, presque personne arrive à en parler. Elle raconte, par exemple, que cette dissociation fait que tout ce qui est de la vie, entre guillemets, normal, est contaminé par cette dissociation. C'est-à-dire que elle se souvient, avant ce viol, quand elle avait faim, elle mangeait. Après, manger, c'était quelque chose qui servait à masquer ce qu'elle ressentait. Ça servait à remplir un vide, ça servait... Donc, la fonction de nourriture avait changé complètement de sens. Et c'est cette contamination dans tous les actes quotidiens, de tous les actes qui sont très difficiles à vivre et à communiquer avec les autres personnes qui n'ont pas cette espèce de double réalité et qui ne peuvent pas comprendre comment une chose apparemment banale peut avoir un effet important. Et donc il y a ça dont elle parle. Elle parle aussi de... Elle n'en parle pas explicitement, mais pour moi ce dont elle parle aussi, c'est de la honte. Et ça se manifeste par le fait qu'une partie de cette vie dissociée qu'elle a, qu'elle seule comprend et qu'elle n'arrive pas à communiquer, elle va la garder cachée. C'est-à-dire que, par exemple, dans les troubles qui vont l'accompagner longtemps, il y a des troubles alimentaires. Et elle va avoir un comportement boulimique, c'est-à-dire qu'elle va manger compulsivement pour ne plus sentir son corps, en fait. Et en parallèle, elle va voir des diététiciens, des médecins qui vont dire « Mais comment ça se fait ? T'as pris du poids, etc. » Et elle va suivre tous les régimes, elle va parler avec eux, elle va avoir toute une apparence de normalité, sans jamais leur dire qu'en cachette la nuit, elle a des compulsions qui font qu'elle mange sans limite. Et une des choses les plus difficiles pour peut-être guérir ou pour sortir de cette dissociation, c'est la capacité à en parler, à le dire, tout simplement. Et parce que cette espèce de vie secrète, honteuse, cachée, c'est une sorte de poison de la vie quotidienne, et c'est aussi un handicap. Ça empêche toutes les relations spontanées, en fait. Une des grandes pertes de la vie après un viol, c'est de ne plus savoir être spontané. C'est d'être trop, d'être pas assez, d'être décalé. Et ça, c'est une perte immense. C'est une perte qui dure très, très, très longtemps. Et je trouve que c'est très bien expliqué dans ce livre. Ce qui me plaît beaucoup dans ce livre aussi, c'est la manière... c'est pas si enfantin, mais c'est une manière assez simple de raconter les choses, un peu comme ce livre dont j'avais parlé ici, je crois, de Wang Xiaobo, qui racontait son expérience de la révolution culturelle en Chine. Pour être capable de dire l'horreur qu'il avait vécue, il avait pris le parti pris d'en parler un peu comme un enfant, quelqu'un d'un peu simple, ce qui permettait de ne pas affronter consciemment et directement la violence de ce qui se passait. Et il y a un peu de ça dans ce livre aussi, je trouve, c'est-à-dire qu'elle a des chapitres qui sont simplement les années, comme un livre...
Comme un journal.
Comme un journal d'adolescent ou quelque chose qui aussi donne cette distance par rapport à l'horreur et qui permet d'en parler d'une manière un peu plus simple. Et bien qu'elle en parle de manière plus simple, ce qu'elle dit est vraiment très juste. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce livre et qui m'a beaucoup plu. C'est cette capacité à mettre des mots sur des instants qui peuvent être anodins vu de l'extérieur et de montrer toute la complexité qui se cache derrière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre? Vous l'avez lu?
Non. Je pense que j'hésite à le lire.
Ah, mais je comprends. Mm. Donc ce livre aussi est intéressant parce qu'à la fin, il y a un dénouement d'une certaine manière, puisque suite à son viol, elle a pu en parler, ses parents l'ont emmené à la police, il y a eu un interrogatoire, elle a vu des médecins, etc. Donc il y a eu une trace de ce qui lui est arrivé. Et à la fin du livre, quand elle a 35 ans, la police la rappelle en lui disant « On a arrêté quelqu'un et on pense que c'est la personne qui vous a violé. » Et elle pourra assister au procès de cette personne. Et elle parle d'une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est au moment où... Je fais une pause.
Des pauses. Mmh.
Elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense tout le temps que la rivière coule. Elle y pense dans la rue et dans la classe, en pleine solitude et en pleine foule. Elle y pense chaque fois que le train passe.
Est-ce qu'ils explosent toujours un peu?
Et puis sur chaque pont qu'elle traverse.
Ah oui, c'est ça.
Chaque fois qu'elle refoule qu'elle renverse une larme d'enfant et de détresse, elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense tout le temps dans la voiture, derrière ses parents qui la conduisent à l'école, au marché ou à l'église. Elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense tout le temps à la maison, quand elle ouvre le tiroir des rasoirs ou la petite porte des flacons. Elle y pense chaque fois que le train siffle, chaque fois qu'elle essaie d'aller moins mal, chaque fois qu'elle avale ou qu'elle renifle une dose à grimper sur les étoiles.
Donc à la fin du livre, il y a cet épisode où elle peut assister au procès de la personne qui l'a violée, qui a été retrouvée par la police. Et ça fait aussi un rappel à l'instant du viol, puisque elle se souvient des yeux de cet homme. Et dans ce regard, c'était le regard de quelqu'un qui ne la voyait pas comme un être humain. Et ce regard, elle l'a retrouvé quand cet homme était à la barre, au tribunal. Il avait les mêmes yeux, toujours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce livre, la manière dont les souvenirs se fixent. Et elle explique aussi très bien cette partie de la mémoire. Elle parle très bien de la mémoire. Elle parle comment la mémoire est fragmentée sous le choc. Et ensuite, simplement, il y a quelques éléments qui restent de manière nette, comme par exemple, elle se souvient de la boucle du ceinturon, elle se souvient du tissu de, je crois, son pantalon, qui est un velours côtelé. Ça, c'est des souvenirs très précis. Par contre, l'enchaînement, la chronologie, c'est complètement en vrac. C'est très difficile à remettre en ordre, donc à quel moment il s'est passé quoi, à quel moment elle était nue, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, ça devient extrêmement confus et c'est presque impossible de le remettre en ordre. C'est ce choc, en fait, oui, c'est ça, ça fait éclater la mémoire. Et ces éléments de mémoire qui sont comme ça, qui sont gravés, c'est juste des images, cette texture de velours, ce reflet de la boucle, etc., deviennent des éléments qui sont récurrents, qui reviennent dans la mémoire à différents moments de sa vie. Et cette perturbation de la mémoire, voilà, c'est ça. Il y a le corps qui est perturbé, il y a l'esprit qui est contaminé par cette dissociation. Et ensuite, il y a aussi toutes les activités pratiques qui permettent d'arrêter de sentir. Mmh. Elle explique ça très bien aussi. C'est sentir en étant dissocié, c'est une douleur. Et donc, tout ce qui permet d'arrêter de sentir je sais pas comment dire, ça permet de faire une pause. Alors évidemment, il y a un coût, parce que ça peut être se droguer, ça peut être boire, ça peut être la boulimie, ça peut être n'importe quoi qui soit un peu compulsif, qui permet d'arrêter de sentir. Et le coût, évidemment, est cher, mais la douleur d'être trop conscient de sa dissociation est trop difficile à percevoir tout le temps. Et cette façon de rendre réel tout cette espèce de second monde qui l'accompagne, je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Et ça montre que le viol, c'est pas un instant. C'est pas les 5 minutes ou les 10 minutes qu'elle a passées avec cet homme. Ça, c'est comme un tissu. C'est le point de déchirement d'un tissu, mais ensuite, ça se déchire pendant tout le temps. Et c'est pour ça que... pour moi, il y a pas mal de discussions en ce moment sur Internet, Twitter, etc. Et c'est vrai que la prescription sur ces crimes n'a pas beaucoup de sens par rapport à ce qui se passe pour la victime. Et bon, on a vu avec tous les scandales dans l'Église, mais enfin, il y en a toutes sortes d'autres scandales en ce moment aussi. Et effectivement, là... Par rapport à ce que vivent les victimes, la prescription, ouais, n'a pas de sens. Et donc la justice a certainement des choses à faire évoluer pour prendre en compte ce qu'on arrive à dire aujourd'hui et qu'on n'était peut-être pas capable de dire il y a 20 ans ou avant. Voilà, donc c'est un livre qui n'est pas très grand, enfin, pas beaucoup de pages. Ça se lit assez facilement. Je vous recommande de le lire.
Baptiste. Il y a Baptiste aussi, vous
pouvez le lire. Il y a Baptiste aussi. Bon. Je vous recommande de le lire et...
Est-ce que... je vais le lire.
D'accord.
J'en ai très peur, mais je vais le lire. Mais est-ce que dans ce livre, à la fin, justement, le fait qu'elle écrit ce livre... D'abord, chronologiquement, qu'elle ait pu assister au procès, c'est ça, hein?
Ouais.
Elle écrit le livre après, j'imagine.
Ouais.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été réparé chez elle ou... Je ne dis pas que la blessure est effacée, parce que bien sûr, on n'efface pas les blessures, mais ouais. Est-ce qu'elle a eu l'impression, justement, que cette dissociation, finalement, s'est estompée, ou cette déchirure, est-ce qu'elle...
Alors,
est incommodée,
est-ce qu'elle... Elle en parle comme d'une réparation, hein. Ouais. Et ça a été une double réparation parce que ça a été concomitant avec la naissance de son premier enfant.
D'accord.
Et elle avait, juste avant que son enfant naisse, ou je me souviens plus très bien, ou pendant qu'il était tout petit nourrisson, elle était encore dans la peur que sa dissociation allait, allait abîmer son enfant, qu'elle arrive, elle, peut-être elle ne saurait pas être la mère qu'elle voudrait être pour cet enfant à cause de ça. Et le procès pour elle a été quelque chose de réparateur qui lui a permis de réunifier à travers son, d'un côté avec son rôle de mère, de l'autre côté avec la justice qui a été rendue, quelque chose s'est ressoudé.
D'accord.
En tout cas, c'est ce qu'elle exprime, c'est ce que j'ai lu.
Bien.
Bien.
Stéphane, merci.
Avec plaisir.
Rendez-vous au prochain livre.
Oui, avec plaisir. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Steven Stephenson, dont j'avais déjà parlé sur d'autres livres. Et c'est comme tous ces autres livres, c'est un livre qui dure très longtemps et qui a beaucoup, beaucoup de détails. Et ça traverse... les États-Unis, la Chine, Taïwan, les Philippines, ça va partout. Et en parallèle, ça va dans le monde des jeux vidéo.
D'accord.
Et donc, c'est vraiment un livre épique et qui me plaît beaucoup. Ce sera pour la prochaine fois.
Eh bien, merci Stéphane. Et puis, je suis impatient d'être cette prochaine fois. Bon week-end, j'ai envie de dire, parce qu'on va pas le cacher, on est quand même samedi.
Oui, c'est vrai. On est samedi sous un arbre magnifique.
Voilà.
Dans une petite cour parisienne.
L'arbre à parole de chez vous.
Voilà, l'arbre à parole, ça lui va bien.
Au revoir Stéphane.
Au revoir.
Chaque foutue fois que passe le train, elle a pas envie de se planter devant. Elle y pense chaque fois, mais elle attend. À deux pas de ses rails qu'elle connaît bien, elle y pense chaque fois, mais elle attend de trouver la façon d'y penser moins. Elle attend qu'on lui vide sa cargaison et que dans le courant d'un grand fou rire, en voyant s'éloigner le dernier wagon, elle oublie de penser qu'elle veut mourir.